J'ai entendu l'expression « j'ai le culte de la France ». Il faut être né ailleurs qu'en France pour dire ça. J'entends rarement des Français nés en France dire « j'ai le culte de la France ». Or, vous l'affirmez très souvent, oui, Julia Kristeva, oui, et je pense que vous invitez aussi, car par exemple, Marie-Rose Moreau, vous n'êtes pas née en France.
Ah non, je suis née en Espagne, en vieille Castille.
Vous êtes arrivée quand en France, vous ?
J'avais 9 mois. Je suis arrivée dans les bras de ma mère pour rejoindre mon père qui était venu travailler comme bûcheron dans le nord de la France. Donc moi, ensuite, j'ai fait mes études à Nancy et je suis venue à Paris. À l'origine, je cherchais des images ou des personnages comme Beauvoir, par exemple.
Vous étiez attirée par de grandes figures féminines ?
Oui, oui. Donc, je venais dans les traces de Beauvoir et j'ai trouvé Julia Kristeva, en réalité. Non, c'est vrai, elle cristallise à la fois une femme intellectuelle qui vient d'ailleurs, qui sait ce que c'est que l'altérité et le voyage, mais qui, à partir de cette altérité et ce voyage, construit presque une nouvelle manière d'ailleurs de lien social, de regard sur la France et de participation aux engagements et à la vie.
Donc le culte de la France, pour reprendre cette expression employée par Julia Kristeva, vous l'avez aussi à travers des figures comme notre intellectuelle ici présente.
Comme notre intellectuelle Julia Kristeva, le culte de la France, mais d'une France qui pense, qui construit, qui imagine, qui rêve, qui se réinvente. Et d'une manière générale, les enfants de migrants, ils cherchent ça, parce qu'ils cherchent à réinventer cette manière d'être à la France, d'être dans l'Europe, dans le monde.
Ceux que vous rencontrez, celles et ceux que vous rencontrez dans la maison de Solène ou ailleurs d'ailleurs.
Hein, et bien d'autres.
Hein. André Markovitch, vous aussi, exilé ou pas, fils d'une mère russe et d'un père juif polonais, mmh, vous êtes né à Prague. Oui. Votre arrivée en France, vous, c'est quand ?
C'est quand j'avais 4 ans. Pour mon père, la question de s'il était français ne se posait simplement pas. Il était absolument français. Pour moi, j'ai toujours eu 2 langues. Enfin, jusqu'à 4 ans, j'ai eu que le russe. Mais après, j'ai eu 2 langues, 2 mondes, ou plutôt un seul. C'est-à-dire, c'est la chambre de l'appartement communautaire où il y avait ma grand-mère et ma grand-tante. C'était là que j'étais. Et je n'y étais jamais. C'était ça le lieu. Tout le reste, c'était une espèce de brouillard, de flou, de choses qui étaient dans la suite du temps, du calendrier, mais qui objectivement n'existaient pas. J'avais 2 vies. La première, c'était la vie d'un enfant de banlieue à l'école, etc. Et la seule vie qui comptait, c'était se souvenir des odeurs, se souvenir des intonations de mes grands-mères, du toucher des meubles, des livres, que je ne voyais que, je ne sais pas, une semaine par an.
Vous exercez un métier, André Markovitch, qui est peu connu. On parle très peu des traducteurs. On dit même qu'ils sont assez mal payés, que c'est un métier qu'on ne met pas suffisamment dans la lumière, alors qu'il est essentiel et nous permet d'avoir accès à la connaissance de la culture étrangère. Je voudrais qu'on écoute le philosophe Jacques Derrida lors d'un colloque sur la traduction. C'était en 1981. Mais lui avait bien conscience de ce qu'était votre métier et il avait envie de rendre hommage aux traducteurs.
Comment oser parler de traduction devant vous qui, dans la conscience vigilante que vous avez d'enjeux immenses et non seulement du destin de la littérature, faites de cette tâche sublime et impossible votre désir, votre inquiétude, votre travail, votre savoir et votre savoir-faire. Comment oserais-je m'avancer devant vous alors que je me sais à la fois sauvage et inexpérimenté dans ce domaine, comme quelqu'un qui, dès le premier instant, dès ses premiers essais, que je pourrais vous raconter off the record, a fui le métier, la belle et terrifiante responsabilité, le devoir et la dette insolvable du traducteur. Admiration pour ceux et celles que je tiens pour les seuls à savoir lire et écrire. Les traductrices et les traducteurs.
Les seuls à savoir lire et écrire, les traductrices et les traducteurs. Est-ce que c'est vrai, Julia Kristeva? Si vous avez souhaité la présence d'un grand traducteur en France, André Markovitch, c'est parce que vous pensez ça aussi ou pas?
Oh oui, absolument. C'est un métier extraordinaire. Ça suppose d'abord un cerveau qui fonctionne sur 2 registres, avec 2 histoires, avec 2 sexualités, avec 2 mentalités, et la capacité de synthèse, mais aussi la capacité de transmettre le rythme d'une culture, la musique d'une culture dans une autre. Il y a dans un traducteur, dans un grand traducteur, quelque chose de mozartien, de musical. Et c'est pourquoi j'aurais aimé qu'on reprenne ce terme de traduction à partir de l'Europe et de son hymne. Nous sommes dans un multilinguisme. C'est quelque chose de fascinant. Mes étudiants qui passent à travers Erasmus de l'anglais au suédois, le russe et en prenant le chinois, c'est une humanité nouvelle qui se crée aujourd'hui, qui est celle du multilinguisme et de la traduction. Mais pour rester avec le travail de Markovitch et la traduction de la littérature, ce multilinguisme peut donner lieu à une sorte de compartimentation, de fragmentation du moi et une sorte de souffrance et de fragilité. On le voit avec les discussions européennes qui ont du mal à s'entendre. Alors que le traducteur, et son travail à lui en particulier, consiste à s'imprégner de la langue de Dostoïevski, en l'occurrence, puisque c'est là-dessus que je l'ai découvert avec énormément d'enthousiasme, et de pouvoir transmettre la soif de parler et l'essoufflement de parler de Dostoïevski. Cette phrase qu'il appelle d'un mot assez rare en français, mais que je trouve très très juste, c'est cette phrase de Dostoïevski qui brasille, dit-il, qui vient du brasier. En lisant la traduction de Dostoïevski par la Pléiade, j'étais un peu déçue, parce que c'est formidable, c'est une excellente traduction. Mais j'avais l'impression que les personnages étaient des raisonneurs qui se renvoient de grands discours et qui ne correspondaient pas à ce que j'avais lu en russe. Et en ouvrant la traduction par Markovitch dans Actes Sud, j'ai rencontré ce verbe vibrant, cette musique, cette passion. Et du coup, ces phrases sont longues, mais c'est des précurseurs de la phrase proustienne. C'est nourri de passion. Et le souffle est le souffle de Job et pas de quelqu'un qui fait des discours pour raisonner. Et il était capable de transmettre le génie du français, lui qui n'est pas de la langue française maternelle, parce qu'il est sensible à ce génie de la langue qui se crée, qui est une éclosion permanente et qui est la définition de l'écriture.
Je vais le laisser répondre, bien sûr, et nous expliquer finalement son métier qui nous semble le métier d'un magicien. Vous avez cité Mozart quand même, on a Mozart avec nous autour de cette table, c'est André Markovitch.
Oui,
vous retrouve après Ayo, elle est née en Allemagne, elle est fille d'un Nigérian et d'une Tzigane roumaine. Sa dernière mélodie s'intitule Rosy Blue, Ayo.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. Was this girl that I once knew? Let's just say her name was Rosie, Rosie Blue. Rosie was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark, and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie Morocco, Aladdin. And how I wish that Rosie was still here. Then I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad. Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. I wish I knew that Rosie was depressed. She couldn't find love, cause her inside was a mess. In this crazy world we're living in, There's too many rosy blues. And if you take a moment, I'm quite sure you might think of a few.
Ayo, dans le grand atelier de Julia Kristeva, où l'on était en train de parler de du miracle de la traduction. Est-ce un miracle, monsieur Le Saint Markovitch?
Oui,
réalisez-vous
ça.
Des miracles? Oui, certainement, parce
c'est ça,
vous avez quand même traduit l'intégralité de l'œuvre de celui qui a écrit Crime et Châtiment, Les Carnets du sous-sol, L'Idiot. Comment est-ce qu'on vit toutes ces années avec cette œuvre? Et au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire lire aux Français?
S'il y a un écrivain connu, un écrivain étranger connu en France, c'est Dostoïevski. Et objectivement, il a été connu par des traductions qui sont, comment vous dire, lointaines de la réalité concrète du texte.
Lointaines de son russe et de ses intentions.
Absolument. Mais c'est ces textes-là qui ont fait connaître Dostoïevski. L'habitude des traductions en français, c'est de rendre français, c'est-à-dire de rendre pareil, de rendre immédiatement reconnaissable à un public qu'on considère comme, disons, banal, le goût, ce qu'on appelle le goût du public.
C'est-à-dire que souvent, le traducteur n'est qu'un copiste.
Voilà. Et c'est un employé de l'éditeur. Mais moi, ce qui m'intéresse dans Dostoïevski, c'est pas de le faire connaître, enfin, c'était pas de le faire connaître parce qu'il était déjà connu. C'était de montrer que il avait des particularités d'écriture qui ne correspondaient à aucune des particularités d'écriture d'un écrivain français. Il n'était ni comparable à Flaubert, ni à Balzac, ni à Céline, ni à je sais pas qui. Il écrivait d'une certaine façon.
Qu'est-ce qui vous apparaissait d'ailleurs de différent en quelques mots?
La première chose, ce style qu'on dit émotionnel oral. D'abord, c'est ça, le primat de l'affect, de l'émotion. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le primat d'une mauvaise foi possible. C'est-à-dire que pour la première fois dans les textes de Dostoïevski, le texte écrit ne correspond pas à la vérité du texte. Ça, c'est un changement absolument majeur dans la littérature. Me semble-t-il que c'est ça la modernité absolue de Dostoïevski.
D'où votre nécessité d'aller chercher ses intentions ou ce que vous croyez être ses intentions?
Oui, bien sûr, l'interprétation de ça. Mais si on se pose pas la question de savoir qui parle dans les carnets du sous-sol et pourquoi il parle et pourquoi il se tait pas, on ne lit pas le livre. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il écrit sur l'obsession. C'est-à-dire que les mots sont répétés de façon à ce que ça vous cogne dedans. Et ensuite, il construit ses romans comme des poèmes, c'est-à-dire à partir d'une ou de plusieurs images sources qui se développent à travers tout le roman. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas des romans, mais des poèmes. Et l'essentiel est de retrouver la structure du poème dans la narration a priori romanesque.
Je me tourne vers un de vos lecteurs, Samuel Doc, visiblement parce que vous vous agitez sur votre chaise, vous avez lu Dostoïevski traduit par André Markovitch.
Exactement, et pourquoi André Markovitch? C'est que quand j'ai découvert Dostoïevski, j'avais 14 ans, c'était Crime et Châtiment, et c'était à travers son regard. Peut-être que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire saisir la vérité du texte plus que le texte écrit, peut-être que je serais passé à côté. Or, il y a deux choses qui, je pense, m'ont sauvé la vie à cette époque où j'étais véritablement enfermé.
Qu'est-ce qui vous arrivait à l'époque?
Mes parents avaient divorcé, ma maman faisait une dépression extrêmement sévère et je suis resté, je dirais, enfermé dans la même ville pendant près de 15 ans, hein, sans partir. Et
là, vous étiez où?
À Besançon et dans des villages à côté. Et c'est vrai que les mots de André Markovitch et plus tard ceux de l'analyse m'ont permis de transvaluer, pour reprendre un terme de Julia Kristeva.
Ça veut dire quoi?
Et c'est passé de l'impensable au sens. Et la traduction la plus fondamentale, finalement, c'est celle-ci, c'est celle que vous faites. C'est réussir vraiment à s'extirper hors de la chair, saisir l'intention, comme vous dites. Je suis surpris aussi que vous parliez d'obsession, puisque je raconte dans mon livre Éloge indocile de la psychanalyse l'expérience de l'obsession qui m'a conduit à démarrer ma propre trajectoire en analyse. C'était véritablement une obsession. Alors peut-être que ce que j'aimais chez Dostoïevski, c'était ça, sans même le savoir, et je le découvre grâce à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, Dostoïevski, tel que l'a présenté André Markovitch, m'a sauvé la vie. C'est ce que fait Marie-Rose Moreau, c'est ce que fait Julia Kristeva. Il s'agit de permettre de rendre représentable, dicible, l'impensable et l'indicible, qui nourrit un symptôme parfois psychique, qui nourrit une angoisse, qui nourrit une souffrance. Et pour ça, je pense qu'on... bravo à vous trois.
Je pense que c'est le propre de la littérature, de rendre sensible et pensable ce qui est impensé et impensable. Il y a une autre chose que... Ce qui m'intéresse, moi, dans la traduction, c'est que justement Dostoïevski n'est pas un écrivain français. C'est-à-dire que c'est à la langue française de l'accueillir, en ce qu'il est étranger, et reproduire ou essayer de donner une image de cette écriture russe en français est une chose possible.
Julia Kristeva.
Oui,
je précise que vous levez la main comme
oui,
à l'école.
Oui, parce que vous avez le regard tourné vers Markovitch qui nous fascine et je voulais reprendre ce qu'il dit sur le fait que cette langue de Dostoïevski n'est pas le français. Ça, c'est évident. Mais quand un traducteur traduit, il essaye, quand un traducteur qui n'est pas Markovitch, il essaye de ramener la source au génie de la langue cible. Et de le franciser, en l'occurrence. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Et en vous écoutant, je pensais à une phrase de Barthes, quand il dit qu'il y a dans l'écriture une circonstance étrangère au langage. La circonstance étrangère au langage, c'est le corps. Et c'est une souffrance liée au corps, et qu'on retrouve de manière extrême dans l'acte amoureux et dans l'amour qui passe par la séparation et les retrouvailles. Eh bien, la littérature est faite pour ça, pour essayer de traduire cette circonstance extérieure au langage. Ça passe par la musique de la langue, par la phrase, par l'hésitation, par le souffle. Et ce qu'il a fait, et ce que je dis en lui rendant hommage dans mon livre qui paraît dans la collection Les auteurs de ma vie, je dis...
Oui, parce que vous avez écrit un livre qui va sortir, qui s'intitule simplement Dostoïevski.
Lui simplement Dostoïevski, et je lui dis qu'il a laissé le français se lâcher pour rejoindre le sacré. Lui, il laisse les vides, les à peu près, mais pourquoi ? On ne sait pas trop. Et cette hésitation n'est pas une faute, c'est une aimantation. Ça vous fait aimer et entrer dans la chair de la langue.
On écoute André Markovitch et puis on ira rencontrer votre PDG, la PDG de Fayard, Sophie de Closet, juste après.
Là, je suis en train de travailler avec des lycéens à Saint-Denis et on a fait un petit stage, un essai de traduction sur quelques lignes de Dostoïevski, le début du sous-sol. C'est en russe. Я человек больной. Moi, comme homme, je suis malade. Je suis un homme malade. Я злой человек. Je suis un homme méchant ou mauvais ou en colère. Не привлекательный я человек. Littéralement, pas attirant. Je suis comme homme. C'est le début du carnet du sous-sol. Et de voir les lycéens comprendre que tout à coup, ce qui compte, c'est, eh ben, je suis pas attirant. Je suis mauvais. Je suis méchant. Mais je suis un homme. Et comment traduire ce cercle de cette première phrase d'un enfermement total, c'est-à-dire le sous-sol, c'est l'image même de l'enfermement en soi.
Comme celui qu'a vécu et décrit Samuel Doc.
C'est pour ça que j'en parle. Hein, ouais. C'est bien pour ça que j'en parle. C'était absolument passionnant de les voir tout à coup comprendre, pas par l'intellect, mais par l'émotion. Ça, c'était extraordinaire.
Ah, vous leur avez fait sentir effectivement ce que vous vivez au quotidien.
Ben, moi, c'est comme ça que je travaille avec les lycéens.
Oui, c'est comme ça que vous travaillez.